Bienvenue sur cours numéro 1 avec ce podcast quotidien du Masterville de Monte Carlo qui a débuté ce dimanche sur la Côte d'Azur avec déjà des matchs du premier tour. On va y revenir. Évidemment, il y a un grand absent, c'est Rafael Nadal, mais on aura l'occasion d'en reparler demain dans le vrai podcast habituel avec Anthony Resch et Florent Serra. Moi, je viens d'arriver à Monte Carlo. Je voulais vous parler des présents. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le lancement du podcast. Cette atmosphère très italienne. On est vraiment à quelques kilomètres de la frontière. Et j'ai le sentiment que cette semaine sera marquée par l'Italie, tout simplement parce que on attend tous un grand tournoi de Yannick Sinner, qui n'a perdu qu'un match cette année. On a déjà un aperçu de la réussite des Italiens, puisque Luca Nardi est sorti des qualifications et il affrontera donc au premier tour Félix Auger-Aliassime lundi en fin de matinée. On a vu aussi la victoire de Lorenzo Musetti qui a battu Taylor Fritz qui perd gros puisque l'Américain, je vous le rappelle, était demi-finaliste l'an passé. Donc vraiment, il y a un phénomène Italia qui est assez incroyable. Évidemment, la victoire en Coupe Davis a changé beaucoup de choses. Le parcours incroyable de Yannick Sinner depuis le début de l'année est en train de faire la hype, comme on dit. On ne parle que de ça. Je suis arrivé ce dimanche, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup plus de joueurs italiens que d'habitude, ce qui est normal. Et je viens de discuter avec peut-être l'emblématique Ubaldo Scanagata, vous savez, celui qui amène les réponses fabuleuses de Novak Djokovic en Australie. Ah, not too bad. Oui, c'est lui qui pose les fameuses questions. Et là, il est aux anges, il est sollicité par tout le monde en salle de presse. Et il m'a déjà glissé 2-3 informations sur Yannick Sinner. Il est le premier estomaqué, franchement, par les performances de Yannick Sinner, parce qu'il le suit depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment, il commençait à douter de la capacité à Yannick Sinner de performer, d'aller tout là-haut. Mais là, depuis 6 mois, c'est juste monstrueux. Il me l'a dit, là, il a gagné 3 kilos de muscles. Et il est en perpétuelle recherche d'amélioration. C'est un garçon qui recherche la perfection. Je vais vous donner une petite anecdote. Son père, Yannick Sinner, était cuisinier dans la station du Haut-Tyrol. Et Yannick Sinner, il s'est imprégné, il s'est inspiré des recettes de son papa et d'ailleurs dans son tennis. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est un garçon qui analyse froidement ses matchs et toujours il va rechercher ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est comme dans une recette de cuisine, vous savez, vous faites des pâtes, vous mettez le basilic, ah, là il y en a un peu trop, bon. La tomate, ah non, il y a trop de tomates, ah, il faut me rajouter du poivre, donc voilà. C'est un chef étoilé, Yannick Sinner, et c'est pour ça qu'il est aussi fort. C'est pour ça qu'il est aussi fort depuis le début de l'année, c'est pour ça qu'il fait aussi peur, c'est pour ça que les joueurs n'arrivent pas à trouver les failles chez Yannick Sinner. Et donc moi je suis vraiment impatient de voir ce qu'il va donner durant toute cette semaine. Il débutera son tournoi mercredi contre le gagnant du match Korda Davidovich Fokina. Attention à Sébastien Korda parce que l'an passé il avait battu Carlos Alcaraz. Mais non, on a hâte de voir ce que ça peut donner. Vous avez vu lors du tirage au sort les sections de tableau. Il y a la finale rêvée Sinner Alcaraz. Enfin, je dis rêvée parce que bon, c'est vrai qu'on est en pleine nouvelle génération. Mais bon, si ces deux-là doivent se retrouver une nouvelle fois, ce sera dimanche en finale de ce Masters 1000. Mais Alcaraz devra quand même se débarrasser dans sa section de tableau de garçons comme Hugo Humbert ou Hubert Hurkacz ou Casper Ruud. Et puis éventuellement, en demi-finale, pourquoi pas, Djokovic ou Rublev. Alors, les Français, évidemment, ils ne sont pas si nombreux que ça. On en a finalement 5, puisque Corentin Moutet a joliment franchi les deux tours de qualification. Et j'ai vu la fin de son match contre l'Allemand Altmaier. Il l'a rendu dingue. Il l'a totalement rendu dingue, et notamment en remportant un point très important en fin de match, en remettant des balles totalement impossibles. Il a fait dégoupiller l'Allemand qui a balancé les balles dans la montagne. Il ne les a toujours pas retrouvées. Il aurait pu essayer la mer. Il a préféré la montagne. Non, Corentin Moutet, c'est assez exceptionnel ce qu'il fait depuis un an, depuis son opération au poignet. Et ce qui est fort, c'est que grâce à ces deux tours de qualif passés, il sera, à mon avis, dans le cut pour Roland-Garros, puisque l'enjeu de ce tournoi, c'est de décrocher sa place pour Roland-Garros, puisque vous le savez, peut-être ou pas, les admissions se font 6 semaines avant. Donc c'est très simple, le classement ATP du 15 avril déterminera donc les joueurs qui pourront participer à Roland-Garros. Concrètement, il faut être dans le top 100, en gros, même si on devine qu'il y aura beaucoup de classements protégés, à commencer par Rafael Nadal en principe. Donc Corentin Moutet, c'est assez génial ce qu'il est en train de faire. L'autre enjeu pour les Français, c'est décrocher les tickets olympiques. Alors, bon, quand on regarde la situation, elle est assez simple sur le papier. On a deux garçons qui sont largement devant, Hugo Humbert et Adrian Manarino. Derrière, on a Gaël Monfils. Et derrière, on a Arthur Fils. Sauf que, on attend de savoir ce que va vraiment faire Adrian Manarino, parce que c'est pas automatique l'inscription pour les Jeux. Il faut que le joueur en parle à sa fédération, en parle à Paul-Henri Mathieu pour dire oui, j'y vais. Sinon, je m'inscris à Washington. Et souvenez-vous des propos d'Adrian Manarino dès l'US Open, lorsque je l'avais interrogé, qui disait non, moi je suis une chèvre sur terre battue, j'ai du mal à concevoir de m'engager dans un tournoi en sachant que je n'ai aucune chance d'aller chercher un résultat, en l'occurrence une médaille. À l'heure qu'il est, Adrian Manarino se donne très peu de chances d'être sur un podium olympique dans un tournoi sur terre battue. Donc, on va évidemment surveiller son match lundi après-midi contre Arthur Fils. Parce que si jamais ça se passe mal pour Adrian Manarino, il va peut-être nous annoncer que, écoutez, ça va être une catastrophe, être sur Terre, je vais laisser ma place. C'était une hypothèse, attention, hein, ce n'est qu'une hypothèse, mais à ce moment-là, ça rebat les cartes. Parce que le cinquième meilleur joueur français à l'ATP au classement du 10 juin serait donc qualifié pour les Jeux Olympiques. Ce qui veut dire que des garçons comme Arthur Cazaux, Arthur Hinderknecht, même s'ils ont été tous les deux, ils sont déjà out ici à Monte-Carlo, Arthur Cazaux, on rassure tout le monde, il a repris l'entraînement sur Terre, mais c'est vrai que son malaise à Miami était beaucoup plus sérieux que prévu, et il est venu en principauté, il devait jouer les qualifs, et finalement il a décidé de ne pas les jouer. Il va normalement reprendre à Barcelone, et donc il a une marge de manœuvre assez réduite pour aller chercher le ticket olympique, puisqu'il a, vous en doutez, vous l'avez vu, hein, une centaine de points de retard sur Arthur Fils. Donc pour l'instant, la situation, elle est assez limpide, mais tout peut être remis en cause si jamais Adrian Manarino décide de zapper les Jeux et de penser à sa carrière personnelle, puisque vous savez qu'en même temps que les Jeux, il y a le tournoi de Washington. Et Adrian Manarino pourrait très bien être la tête de série 1 ou 2 de ce tournoi de Washington, puisque tout le monde sera à Paris. Et si tu gagnes Washington, tu prends 500 points, tu prends des dollars, ça te fait grimper au classement. Donc voilà, il y a toute une réflexion qui va être entamée, à mon avis, à partir de cette saison sur Terre pour le Français. On suivra aussi évidemment Gaël Monfils, parce qu'il a eu la wildcard. Alors je sais que ça. Il y avait une concurrence avec Richard Gasquet. Les organisateurs, David Messé, qui était en direct sur RMC samedi soir dans l'émission de Stephen Brun, Stephen Time, a expliqué que Gaël Monfils présentait plus de garanties, si je puis dire, puisqu'il est 40e mondial, alors que Richard Gasquet est beaucoup plus loin. Donc la décision a été faite. L'autre wildcard accordé, et là je reviens sur mes pieds italiens, c'est pour Matteo Berrettini. Et vous l'avez vu sans doute, Matteo Berrettini a de nouveau soulevé un trophée, c'était à Marrakech. Et c'est juste génial pour l'Italien qui a vraiment connu des pépins à répétition, des pépins de santé. Donc voilà, je suis convaincu que, je dis pas qu'on va entendre l'hymne italien dimanche, mais il va se passer beaucoup de choses ici à Monte-Carlo avec les joueurs italiens. Et ça nous promet une ambiance fabuleuse parce que, vous savez, hein, 50% des tickets sont achetés par des Italiens. On va se battre pour essayer de, pourquoi pas au marché noir, de décrocher un sésame. Il n'y a que 10 000 places sur le central. Mais ça promet vraiment des étincelles si jamais Sinner, Musetti ou Berrettini vont très loin ici, sur le rocher. Donc pour ce premier grand rendez-vous sur terre battue avec un grand absent, Nadal, on espère, on touche du bois, on espère qu'il pourra être présentable à Roland. Mais franchement, avec le plateau qu'il y a cette semaine, on va se régaler. Et je vais donc vous retrouver tous les soirs donc pour ce petit podcast quotidien. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.
RMC, cours numéro 1.